vous invite à vous tourner dans vos Bibles à 1 roi 3. Salomon, le grand roi Salomon. Ce qui est intéressant, c'est toujours le commentaire de la Bible sur elle-même. Surtout quand le commentaire vient de la bouche de notre Seigneur Jésus. J'aimerais, avant de commencer à lire notre passage, qu'on se tourne dans Matthieu 12, 42. Il parlait de son ensevelissement. Vous vous souvenez, les chefs religieux de son temps, les scribes, les pharisiens, viennent le voir et lui disent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part ». C'est Matthieu 12, 38. Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas ». Jonas était un personnage historique, Jésus en parle comme d'une réalité historique, pas comme d'une belle légende ou une belle histoire pour l'école du dimanche. Il continue verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement. » Avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Jésus dit qu'il est supérieur au prophète Jonas. Et puis il dit la reine, verset 42, la reine du Midi, faisant allusion à la reine de Saba, se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Et donc Jésus dit qu'en fait Salomon, c'est simplement une préfiguration inférieure à lui-même. Et c'est toujours bon, lorsqu'on étudie la Bible, de chercher Jésus dans le passage, que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Où est Jésus? Et là, Jésus, il est cet homme-Dieu en qui sont cachés, nous dit Paul, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'est Colossiens 2, 3. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir ces chapitres 3 et 4. Et le début du chapitre 5 qui nous parle de la sagesse demandée, la sagesse reçue et de la sagesse appliquée. Vous vous souvenez que le roi Salomon venait de prendre la succession de son père David, qu'il avait dû éliminer des ennemis de son trône, notamment son frère Adonia, qui complotait, qui essayait de prendre le trône qui ne lui revenait pas. Cet homme reconnaît plus loin, ou a reconnu dans nos lectures précédentes, que le trône était destiné à Dieu de la part, à Salomon de la part de Dieu. Mais lui, il était le frère aîné, il pensait que lui aussi avait le droit d'avoir un bon poste dans ce remaniement de royaume. Et il montre de la sagesse, c'est son père, David, qui lui dit tu es sage et tu ne laisses pas ces personnes qui veulent attenter à ton trône, à ta vie. Et donc il supprime ou il met hors d'état de nuire plusieurs personnages, prêtres, le le chef militaire de David, les anciens du trône de David. Et là, en fait, il va avoir un siège, un trône affermi. On a vu comment la royauté avait été affermie au chapitre 2. Et là, nous arrivons au chapitre 3 où il nous est dit que Salomon, verset 1, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Autrement dit, le temple n'était pas encore construit. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Salomon répondit « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur, alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voici ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Un épisode remarquable où Salomon demande à Dieu la sagesse. C'est intéressant parce que au départ, on voit que Salomon épouse la fille du pharaon. Donc il épouse une incroyante. On sait que Salomon va finir avec 700 épouses et 300 concubines qui vont causer sa perte parce qu'il va les laisser introduire leurs idoles et leurs cultes à des faux dieux. Et le problème, ce n'est pas que ces femmes étaient étrangères. Pour tous ceux d'entre vous qui sont mariés à des personnes qui portent un passeport différent, le problème, c'était qu'elles n'étaient pas croyantes et qu'elles avaient d'autres dieux, d'autres allégeances. Dans 2 Corinthiens 6, 14, l'apôtre Paul dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » traduction plus littérale de la version anglaise serait « Ne soyez pas liés dans une relation intime et ou formelle, forte avec des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. » Il dit « Qu'à quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est très important, surtout pour vous qui êtes à l'âge où on aspire à trouver le compagnon, la compagne de sa vie, de prendre ces instructions au sérieux. Souvent, on se dit « il n'est pas croyant, elle n'est pas croyante, mais il est très ouvert, elle est très ouverte et je vais faire une fréquentation évangéliste. Ouais. Je vais évangéliser la personne avec qui je sors. » Et je peux citer des cas extrêmement rares où ça marche. Mais la grande majorité des cas, ça ne marche pas. Et ne vous n'utilisez pas les cas où ça marche pour justifier votre situation. Soyez sage. Évitez de fréquenter des non-chrétiens. On vous dit, c'est bien joli, mais les jeunes chrétiens, pour les filles, les jeunes chrétiens, il n'y en a pas beaucoup dans l'Église. Des garçons qui marchent sérieusement avec le Seigneur. J'ai mon horloge biologique qui commence à faire tic-tic, tic-tac, tic-tic. Tic-tic, c'est quand ça va sonner et que ça sera trop tard pour avoir des enfants. Alors rassurez-vous, on peut avoir des enfants maintenant jusqu'à 60 ans et plus, c'est pas très drôle, mais... Qu'est-ce qu'il est encourageant ce matin, Pierre, hein ? Cherchez d'abord le Seigneur. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors, c'est pas, dans Matthieu 6, il ne parle pas d'un compagnon, mais c'est le principe de Dieu. Si vous le mettez au centre de votre vie, il sait vos aspirations, c'est lui qui met les désirs dans votre cœur. Et il va pourvoir. Et c'est souvent lorsque on décide d'arrêter de forcer les choses, de forcer la main du Seigneur ou de forcer la main des jeunes filles ou des garçons en âge d'être mariés, que le Seigneur ouvre les portes. Et ce que vous avez du mal à faire, lui, il peut le faire parfaitement. Et un des témoignages de... Alors, c'est pas nécessairement pour dire que c'est parfait, mais Tonio, il témoigne que lorsqu'il a décidé de consacrer sa vie au Seigneur, le Seigneur a amené quelqu'un dans sa vie. Et je crois que nous, les parents, les amis, ou lui n'aurait pas pu trouver la personne que le Seigneur lui a amenée. Alors, encore une fois, c'est un principe. Il n'est pas expressément condamné. Le mariage de Salomon n'est pas ici condamné. Il n'est pas dit dans la loi, il n'était pas dit qu'il était interdit d'épouser la fille du Pharaon. Bien qu'il y ait des passages qui déconseillaient fortement les unions avec des païennes. Et parce que ce n'est pas interdit, ça ne veut pas dire que c'est bien. Là aussi, si on approche les choses en se disant « jusqu'où je peux aller sans que ce soit un péché », on a tout faux. Parce que la motivation est une motivation de peur, en se disant « je vais jouer avec le péché ou avec les choses qui ne me semblent pas tout à fait justes jusqu'à un tel point, en espérant que je ne franchisse pas la ligne ». Mais l'attraction du péché, elle est exponentielle. Plus vous vous approchez de la tentation, et plus son attraction est forte. Un peu comme les lois de la physique, la gravitation, l'attraction magnétique ou l'attraction terrestre. C'est souvent inversement proportionnel au carré de la distance. Là ça vous aide, hein ? C'est-à-dire que plus vous approchez, plus c'est difficile de résister. Et quand on joue avec ça, quand on s'approche trop fort à un moment donné, c'est un peu comme les aimants. Les aimants, s'ils sont là, on sent une petite vibration, une petite résistance. Mais quand on approche, clac ! Et c'est la même chose avec la tentation et le péché. Ne fréquentez pas des non-chrétiens. Priez le Seigneur. Cherchez-le d'abord. Et il va vous bénir au-delà, infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser. Amen. Pour ceux qui ont trouvé l'âme sœur. Le peuple sacrifié sur les hauts lieux. Vous vous souvenez que David avait ramené l'Arche de l'Alliance, mais le tabernacle était resté à Gabaon. Et les gens avaient pris l'habitude d'offrir des sacrifices sur les montagnes, les collines. L'idée, c'était que si on va sur une colline de 50 mètres, 150 mètres, 900 mètres, alors là on va être plus près de Dieu, plus près du ciel, donc Dieu, on a plus de chances d'être entendu, ce qui est bien sûr absolument stupide. Vous pouvez prier dans le fond d'un puits de mine, comme l'ont fait les mineurs qui ont été rescapés il n'y a pas longtemps, au Chili. Et là, Salomon va offrir 1000 holocaustes, c'est-à-dire 1000 bêtes qui seront complètement brûlées par le feu. Un énorme sacrifice. C'était pas mettre un billet dans la boîte de la dîme, c'était sacrifier des taureaux, des bœufs, des moutons. Ça voulait dire, c'était une immense boucherie. 1000, je sais pas si vous avez déjà désossé un petit mouton ou un poulet, des fois c'est difficile si on n'a pas les bons instruments, mais là c'était des bœufs pendant 1000, un troupeau de 1000 bêtes. Quand on a fait la retraite, on a vu quelques vaches sauvages ou en liberté sur les montagnes du Mercantour, on a vu peut-être une dizaine ou une cinquantaine maximum, 1000, un énorme travail. Un sacrifice. On a tendance à rejeter cette notion de sacrifice parce que Dieu nous sauve par la grâce. Mais le sacrifice est une façon de montrer sa consécration à Dieu. Sa façon de montrer qu'on le prend au sérieux et qu'on veut... On veut lui montrer par la difficulté de ce qu'on fait pour lui... qu'on l'aime et qu'on est prêt à payer de notre personne, de notre temps, de notre énergie, de nos finances. C'est une notion, la notion de sacrifice qui n'a plus bonne presse. Avant, les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Ils refusaient le divorce, même si la vie entre couples, dans le couple, n'était plus très bonne, parce qu'ils mettaient l'intérêt des autres avant leur propre intérêt. Et c'est une façon de montrer qu'on a de l'amour pour Dieu en aimant les autres au-delà de nous-mêmes. Alors, encore une fois, ne pensez pas que j'ai tout compris, que je sois un exemple de ça. Mais je veux, devant Dieu, qu'on s'engage tous à se servir les uns les autres, pas se servir des uns des autres. Et ça commence tout bêtement par l'engagement pour servir à l'Église. C'est souvent une petite équipe, quelques personnes fidèles qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de l'accueil, qui s'occupent. Ça prend pas beaucoup, ça va prendre un peu de temps de votre part, prendre 2 heures le samedi pendant votre week-end. C'est une façon de montrer à Dieu que vous le prenez au sérieux, que vous lui donnez pas seulement les miettes de votre temps, les traditions. Et on veut pas motiver par la culpabilité, mais par l'amour. Et si vous aimez Dieu, vous allez vouloir lui donner le meilleur de vous-même. Si ce n'est pas le cas, est-ce que votre amour est sincère? Ou est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il vous donne des choses, mais que quand il faut lui donner en retour, Dieu ne nous demande pas, son amour n'est pas mérité par nos œuvres. Mais si son amour est dans nos cœurs, automatiquement il va y avoir des œuvres, il va y avoir le désir de servir l'Église, servir les frères, les sœurs. Nous avons la joie d'être assez nombreux pour trouver des personnes qui ont besoin de votre aide. Des personnes qui ont besoin d'aide pour déménager, pour bricoler, pour cuisiner, pour transporter, pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas les occasions qui manquent, mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs et d'être sensibles, de proposer nos services. Et Dieu, encore une fois, sa grâce, on ne la mérite pas. Mais là, on voit que Dieu est touché par l'engagement de Salomon, qui dit à Dieu, qui reconnaît que Dieu a béni son père, David, verset 6, et qui remercie Dieu de l'avoir établi comme roi. Mais Salomon a une juste vision de ses ressources personnelles. Il était un jeune. Je pense qu'à l'époque, il avait une vingtaine d'années. Et il dit, je ne sais pas gouverner. Moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Il remercie Dieu d'avoir multiplié le peuple juif, qui ne peut plus être compté ni évalué à cause de son grand nombre. Et il demande à Dieu, un cœur attentif, un cœur qui entend. Un cœur qui entend et qui écoute. Il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est qu'on met en pratique. Écoute bien, fais ça. On écoute, on met, on obéit, on discerne le bien et le mal. Et il dit, qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Donc on voit des dispositions dans le cœur de Salomon. Sa priorité, c'était d'être un bon roi pour le peuple. Il avait à cœur de faire ce qui était juste. Il considérait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, comme étant si important. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous animer, qui doit m'animer. C'est que je ne suis pas là pour me servir. Nous ne sommes pas là pour servir nos intérêts dans l'Église. Nous sommes là au service les uns des autres. Parce que vous êtes un peuple important aux yeux de Dieu. Et quand je vous vois, je me dis, toutes ces personnes, toutes ces âmes sont tellement précieuses à Dieu. Est-ce que je suis un bon pasteur? Qu'est-ce que je pourrais faire pour fortifier leur relation avec Dieu, pour qu'ils grandissent dans leur vie de prière, pour qu'ils grandissent dans leur connaissance de la parole, qu'ils grandissent dans leur service? Et c'est intéressant de réaliser que on ne sait pas gouverner. Je souhaite que nos dirigeants politiques aient cette même attitude d'humilité en disant « j'ai pas les solutions, mais je me tourne vers Dieu ». Je crois que ça nous épargnerait bien des revers de fortune, bien des souffrances, bien des désillusions. Je ne sais pas gouverner, je ne suis qu'un petit homme et j'ai besoin de ta sagesse, un cœur attentif pour discerner le bien du mal. Combien de fois nous sommes confrontés à des situations, tous autant que nous sommes, on veut faire la volonté de Dieu mais on n'est pas sûr de ce qu'elle est. Dieu nous dit « demandez-moi ». C'est dans le livre de Jacques que cette sagesse nous est... Nous sommes invités à demander cette sagesse dans Jacques 1, 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous un petit peu, non, libéralement, en grande quantité, sans compter, et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Peut-être vous vous dites, j'ai déjà demandé la sagesse la semaine dernière, si je vais demander à Dieu de la sagesse aujourd'hui encore, il va me dire, mais tu n'arrives pas à prendre une décision depuis le temps. Qu'est-ce que tu as fait de la sagesse que je t'ai donnée la semaine dernière? Non, il est dit qu'il ne va pas nous faire de reproches. Il ne va pas nous dire, imbécile, tu n'as encore rien compris, il faut que je te redonne la sagesse. Non, si nous manquons de sagesse, si nous savons, nous réalisons que nous manquons de sagesse, demandons-lui et elle nous sera donnée. Qu'il la demande avec foi, verset 6, sans douter. Soyez assurés que si vous remettez vos décisions, si vous les présentez au Seigneur en lui demandant la sagesse, il va vous donner la réponse avec sa sagesse. Croyez-le par la foi. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas eu une confirmation la dernière fois où c'était vague, que c'est plus la peine, que vous êtes trop loin de Dieu. Non. Demandez-lui. Il promet de la donner. Et la sagesse qu'il donne, ce n'est pas celle qui vient de la terre, qui est terrestre, charnelle, démoniaque. La sagesse des conseillers qu'on trouve et qui n'ont aucune référence à Dieu, la sagesse que Dieu donne, c'est celle qui vient d'en haut. Et la sagesse d'en haut, verset 17 de Jacques 3, 17, c'est « elle est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Si vous voulez savoir si vous avez reçu un message de la part de Dieu, vous pouvez aller à l'aune en utilisant ces caractéristiques. Est-ce que ce que je pense avoir reçu comme conseil de Dieu, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est pacifique? Ou est-ce que ça me conduit à faire la guerre avec mes proches, mes collègues? Est-ce que c'est modéré? Ou est-ce que c'est un peu démentiel? Est-ce que c'est... conciliant, est-ce que ça c'est ses atouts pleins de miséricorde, de pardon, de bons fruits? Est-ce que ça va donner des bons fruits? Sans parti pris, c'est ce que veut dire le mot partialité, sans hypocrisie, honnêtement. Et donc, de même que Dieu donne à David... Salomon, cette sagesse, il est dit, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. La demande que vous faites au Seigneur pour de la sagesse, elle va être reçue avec joie et Dieu va répondre. Voyez comment Dieu répond. Verset 11, c'est ce que tu demandes, tu ne demandes pas les choses qu'on demande habituellement. Une longue vie, la richesse, la mort des ennemis. Est-ce que vous avez déjà prié pour la mort de vos ennemis? David le faisait, Et avant l'évangile, certains pouvaient le faire. Nous savons maintenant que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances d'en haut, dans les lieux célestes, dans les forces des ténèbres d'ici-bas. C'est un combat spirituel, mais nous pouvons demander la victoire sur ces forces spirituelles. Et donc, puisque tu as simplement demandé de l'intelligence afin d'être attentif, donc de comprendre, d'écouter et d'obéir à ce qui est droit, voilà, je vais agir selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte que tu vas être le premier et le dernier qui ait autant de sagesse. Et puis, parce que tu n'as pas cherché à être égoïste, tu as cherché de ma part que je te donne la sagesse qui vient d'en haut, alors je vais te donner en prime la richesse, la gloire, et tu vas être un roi fameux dans toute l'histoire pour ses qualités. Et puis Dieu lui dit, si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'avait fait David, je prolongerai tes jours, je te donnerai une longue vie. Et il est dit que Salomon se réveilla, c'était dans un songe, mais c'est un rêve très, très vivant. Au matin, il se lève, il va à l'arche, devant l'arche de l'Alliance et offre des holocaustes et fait un festin à tous ses serviteurs. Verset 5. Dieu demande à Salomon, dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Waouh ! On est un peu jaloux de ce Salomon. Dieu qui vient et qui vous dit « Dis-moi ce que tu veux. » C'est une bonne question à se poser. Si Dieu était là et disait ce n'est pas un génie, c'est le Dieu créateur de l'univers, mais on pense à la lampe d'Aladin et tu as droit. Alors, peut-être certains vont dire, je veux sept autres choix, sept autres vœux. Non, il demande une seule chose. Quelle serait la chose que vous demanderiez à Dieu si vous étiez placé dans la situation de Salomon ? Vous n'avez droit qu'à une réponse. Alors c'est vrai qu'on se dit, il y a cet examen là que je prépare, si seulement je pouvais avoir ça. Et puis on se dit, non, c'est un peu bête. Parce que, je sais, un appartement super, une villa, avec une piscine et une vue à Villefranche. Oui, mais attends, après il va y avoir la taxe foncière. Peut-être l'argent. Ouais, l'argent, c'est... Qu'est-ce que vous demandez ? Les plaisirs ? Waouh ! La beauté ? La jeunesse ? Pouf ! J'aime bien maintenant quand les gens voient des photos de moi quand j'avais 30, 40 ans, ils disent « Tu avais des cheveux noirs ?» Je dis « Non seulement j'avais des cheveux, mais ils étaient noirs, ouais. Bruns. » La jeunesse, la beauté. Qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu ? Ce qui est remarquable, c'est que vous n'avez pas besoin d'être jaloux. Regardons dans Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Ouais, d'accord, il y a ce passage, mais... Tournons-nous dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Un autre passage, 1 Jean, juste avant l'Apocalypse, 1, 2, 3 Jean. Après Pierre, 1 et 2. 1 Jean 5, 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Dieu nous fait la même offre qu'au roi Salomon. Et ça, c'est... Vous avez remarqué quand même qu'il y a toujours cette idée de quelque chose selon la volonté de Dieu. S'il veut que vous retrouviez votre chevelure de hippie, il peut le faire. Mais est-ce que c'est vraiment sa volonté ? Est-ce qu'il est ce qui compte le plus ? Demandez et l'on vous donnera. Dieu vous donnera si vous demandez selon sa volonté. Laissez Dieu vous inspirer vos désirs, les désirs de votre cœur, parce que s'ils viennent de lui, il va les accomplir. Demandez à Dieu de vous donner ces désirs qui viennent de lui. Connaissez la parole pour voir ce qui est en accord avec sa vérité, avec sa volonté. Plus vous lisez la parole et plus vous connaîtrez la volonté de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu exauce les prières. Dieu permet des situations pour qu'il soit glorifié par des prières exaucées. Cette semaine, on a prié pour du travail pour une personne. Un quart d'heure après, la personne recevait un coup de fil avec une proposition d'embauche. Elle avait déjà été en pourparlers avec plusieurs personnes. Alors oui, c'est une coïncidence. Il y a quelqu'un qui a perdu des papiers, des très importants, à l'arrêt du bus. On a prié. Et le lendemain, cette personne, ou le surlendemain, cette personne a pu retrouver ses affaires. Quelqu'un a oublié quelque chose aussi dans le bus. Elle a prié, j'en suis sûr. Et elle a retrouvé. Dieu répond aux prières. Pas seulement à l'époque de Salomon. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu ? Est-ce que nous approchons de lui pour lui demander les choses qui sont selon sa volonté ? Notre première réaction, c'est de dire « Ah, ça y est, tout est perdu. Pourquoi Dieu permet-il une chose pareille ?» Dieu permet certaines choses pour sa gloire. Parce que lorsque nous sommes dans ces situations et que les gens nous voient prier et qu'ils voient comment Dieu exauce les prières, ils se disent « Il y a quelqu'un dans les cieux qui aime ces personnes et qui veut m'aimer aussi. » C'est un témoignage formidable. N'hésitons pas à offrir aux incroyants de prier pour eux en leur précisant une condition, c'est qu'ils vous fassent part du moment où la solution arrivera. Ils seront un peu penauds, mais ça va aller travailler lorsqu'ils vont voir la solution de leur problème arriver suite à vos prières. On arrive à cet épisode bien connu de la sagesse de Salomon en action. Vous connaissez l'histoire sans doute. Deux femmes, il dit ici que c'était des prostituées. Il faut savoir qu'en hébreu antique, c'était le même mot prostituée que tenancière d'auberge, aubergiste ou prostituée, parce que souvent les deux allaient ensemble. L'aubergiste était une prostituée, mais peu importe, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Et elles ont une dispute parce qu'elles ont eu toutes les deux des enfants et que l'une d'entre elles, en dormant avec son bébé dans le lit, a écrasé son enfant et l'enfant est mort, le bébé. Mais ce qu'elle a fait, c'est de... Au passage, on peut remarquer pour les parents de jeunes bébés que c'est jamais bien de dormir avec vos enfants dans le même lit. Petite parenthèse. Et la femme qui a écrasé son enfant va mettre l'enfant mort à côté de la maman qui avait encore l'enfant vivant et prend son enfant vivant. Et le matin, la maman de l'enfant qui n'était pas mort réalise qu'il y a eu une supercherie et elles ont accès devant le roi. Et le roi, c'est en fait la parole d'une prostituée ou d'une tenancière d'auberge, d'une aubergiste, contre la parole d'une autre personne. Et à vue humaine, on peut jouer à pile ou face. Mais Salomon avait reçu une grande sagesse, on vient de le voir. Dieu avait exaucé sa prière, et là il va faire preuve d'une sagesse formidable. Un des dons de l'Esprit auxquels nous croyons que les dons de l'Esprit sont pour aujourd'hui tous les dons, pas seulement les dons les plus spectaculaires, tous les dons sont valables parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens que lorsque le parfait sera venu, les dons ne seront plus là. Le parfait, ce n'est pas le canon de la Bible au complet, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais parmi ces dons, il y a un don très important qui est le don de paroles de sagesse. Il y a des paroles de connaissance, paroles de prophétie, paroles de sagesse. Et ça aussi, c'est un don pour lequel vous pouvez prier si vous êtes dans des positions où vous avez souvent à donner des conseils à autrui. C'est un don qui vous permet de trouver une solution géniale à un problème qui apparemment n'a pas de solution facile. Et on peut dire que la réponse de Salomon procède de ce même don de sagesse par l'Esprit Saint, bien qu'à l'époque l'Esprit Saint ne demeurait pas de façon permanente sur les croyants, mais sa réponse est bouleversante. Il fait amener une épée. Il dit, c'est pas difficile, vous avez plus qu'un gosse vivant, on va le couper en deux, vous en aurez chacun un morceau. Et là, il prend un peu des risques parce qu'il appelle la personne, on dit, attention, là, si le gars qui vient avec l'épée va trop vite, l'enfant va mourir. Mais il avait anticipé la réponse de la vraie maman qui serait prête à perdre son fils et le laisser vivant plutôt qu'à obtenir une moitié d'un enfant mort. Et donc il prend la parole, il dit « Donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Et tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car l'on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Cette sagesse, la façon dont vous traitez les problèmes avec ces dons de sagesse, c'est quelque chose qui manque tellement dans notre monde, c'est quelque chose qui manquait tellement dans le monde de Salomon, que les gens remarquent. Et là, ils ont peur parce qu'ils voient que Salomon a une grande sagesse, qu'il peut discerner entre le bien et le mal. Et c'est drôle, cette réaction de peur. C'est parce que tous autant que nous sommes, notre vieille nature de pécheur a tendance à cacher des choses. Et qu'on se dit, ouh, s'il y a quelqu'un qui discerne, quelqu'un qui a un don de prophétie, qui voit, mes péchés vont être révélés. La solution, c'est de confesser vos péchés à Dieu et ne plus continuer dans le péché habituel, dans les péchés. Pas d'avoir peur du grand Salomon. Nous avons vu que le plus grand que Salomon, c'est Jésus. Jésus nous demande de venir à lui en confessant nos péchés. Épisode bien connu, épisode bouleversant et qui montre que Dieu avait exaucé la prière de Salomon parce qu'il n'avait pas demandé pour lui la gloire, la beauté, la richesse, de lui a donné tout ça en plus. Maintenant, pour terminer rapidement, j'ai simplement une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que David aurait demandé la même chose? Est-ce qu'il aurait demandé la sagesse pour mieux gouverner? On peut être si préoccupé de nos tâches, de ce qu'on fait pour Dieu, qu'on en oublie que l'important, ce n'est pas ce qu'on fait pour lui, mais c'est notre relation avec lui. Je suis à peu près convaincu, et j'entendais pasteur Dave Guzik, qui a marié Tonio et Lindsay quelques semaines, qui disait que sans doute David aurait demandé davantage de Dieu. Si on sert le Seigneur, surtout professionnellement, pasteur, missionnaire, on a souvent tendance à venir à Dieu pour lui demander de l'aide pour servir. Mais Dieu nous appelle, plus qu'à le servir, il nous appelle à être en sa présence, à être dans la relation. Et si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes ces choses, la bonne gouvernance, la sagesse, les choses matérielles dont nous avons besoin, toutes ces choses nous seront données. Et on va voir malheureusement que si Dieu était satisfait, mais je ne crois pas qu'il n'y avait pas une meilleure réponse qui aurait pu être donnée. Et j'ai tendance à être d'accord avec cette vision des choses, que lorsque Dieu nous demande tout ce qu'on veut, on doit lui demander « Donne-moi d'être plus près de toi. » Parce qu'en fin de compte, c'est ça le principal. Tout le reste va en découler, la sagesse, le service qui produit du fruit. Et en plus, quand on cherche à bien gouverner, à être un bon pasteur, est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas une petite part d'orgueil ou de gloire ou d'attrait de dire « Ah oui, un tel, ça c'est un bon pasteur. Quel bon prédicateur, quel bon encourageur ou discipleur. » Ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, je crois que David aurait dit « Une seule chose compte. » C'est de demeurer dans la maison du Seigneur, d'être en sa présence. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple d'un homme qui a cherché à suivre son père, qui était un homme selon ton cœur et qui a pris au sérieux les responsabilités que tu lui donnais, qui a voulu te servir du mieux possible, du mieux qu'il pouvait, et réalisant qu'il n'avait pas tout à demander ce qu'il fallait. Seigneur, nous aussi, nous te demandons la sagesse, parce que tu nous dis, tu nous promets de l'exaucer, d'exaucer cette prière. Mais Seigneur, mets dans mon cœur, dans le cœur de chacun, le plus grand désir qui soit, celui de te connaître plus, d'être en ta présence tous les jours, dans toutes nos conditions. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, disait le psalmiste, disait David, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Seigneur, donne-nous d'être en ta présence à tout moment, de te connaître davantage. Et toutes ces choses, Seigneur, tu nous les donneras, tu nous utiliseras, mais nous savons, Seigneur, que ce que tu cherches d'abord, c'est notre cœur. Alors, Seigneur, dirige nos cœurs vers toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.